Je vous remercie, Monsieur le Président. À l'entame de mon intervention, je vous félicite d'avoir été élu président de la deuxième réunion d'experts. Soyez assuré de l'entier soutien de ma délégation dans le cadre de votre travail à la tête de nos travaux. Je vous félicite des consultations précédentes que vous avez organisées, des documents que vous avez présentés et du tableau. Monsieur le Président, à ce stade, le Brésil souhaite réitérer un certain nombre d'aspects relatifs à sa position sur la question qui nous occupe. C'est une vérité universelle qu'en l'absence des réglementations dans le domaine des progrès des sciences de la vie, la perspective de leur utilisation à des fins militaires ou d'armement est probable. On sait que ce sont des domaines qui donnent aussi à l'humanité des merveilles et qui permettent notamment de mettre au point très rapidement des vaccins. Les percées scientifiques et techniques dans le domaine des sciences de la vie aujourd'hui sont sur toutes les unes de page, ce qui augmente la possibilité d'utilisation d'agents biologiques à des fins malveillantes, ce qui est particulièrement perturbant puisque les armes biologiques sont les armes les moins réglementées parmi les armes de destruction massive. Voilà le fond de la question. Et l'on a une révolution technique et scientifique en cours dans le domaine du désarmement, pour laquelle il n'y a quasiment aucun engagement juridiquement contraignant. Les pays qui élaborent ce type de technologies de pointe, technologies qui peuvent servir d'armes ou être militarisées, renforcent la responsabilité de la BW, de la Convention, qui doit être renforcée de façon multilatérale et non discriminatoire. Les technologies à utilisation duale comprennent notamment l'utilisation dérivée de connaissances, l'exposition à de nouveaux pathogènes et la diffusion d'outils dans d'autres domaines de recherche. D'autre part, si nous considérons que l'examen des progrès scientifiques et technologiques doit demeurer une priorité au sein de la Convention, nous devons appeler à la prudence et faire preuve de retenue s'agissant d'entraver l'accès de façon à des technologies pacifiques. Voilà pourquoi il est important de renforcer la Convention en tenant compte de chacune des préoccupations des États parties, particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 10. Monsieur le Président, fort de ces considérations, nous venons de vous communiquer certaines informations. Pendant l'ISP, le Brésil a appuyé l'idée d'établir un mécanisme d'examen des progrès des sciences et des technologies. Nous prenons en note tous les documents qui ont été proposés. Nous remercions les personnes qui ont fait des exposés aujourd'hui car ils vont enrichir les discussions en amont de la conférence d'examen. Nous saluons également certaines propositions qui ont été mises à jour, ce qui montre qu'il y a une convergence croissante et que nous sommes animés d'un esprit constructif autour de cette question. Monsieur le Président, cet esprit constructif, cette convergence, nous l'avons entendu, mais il y a une question, il y a un point, un sujet spécifique qui n'est pas vraiment en lien avec le fond du document, mais qui relève de la procédure et que je souhaite évoquer. L'un des documents de travail, celui qui a été présenté par l'UNIDIR, alors peut-être que je me trompe, eh bien il me semble que c'est la première fois que je vois une institution présenter un document de travail. On sait fort bien quelle est la qualité des travaux de l'UNIDIR? De fait, nous-mêmes avons noué des partenariats avec l'UNIDIR en 2018, en 2019, en 2020 et en 2021. Nous ne remettons pas en cause la qualité du travail de l'UNIDIR. Nous espérons d'ailleurs pouvoir organiser avec l'UNIDIR de nouvelles activités. mais je n'ai rien trouvé qui interdise une institution de présenter un document de travail lors d'une réunion d'État-partie. Mais le fait est que je n'ai rien trouvé non plus qui autorise une institution à présenter un document dans une réunion d'État-partie. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait le terme indépendant et autonome. Que les choses soient claires, Monsieur le Président, je ne remets pas en cause la validité de l'intervention de l'UNIDIR. Au contraire, la teneur de tout ce qui a été présenté par l'UNIDIR était d'une très bonne qualité et on connaît très bien l'importance des travaux de l'UNIDIR. Il me semble toutefois déplacé qu'une organisation indépendante présente ou signe un document de travail. Alors, je remercie le pays donateur parce que je pense à nouveau que le travail était très important et je remercie le pays qui a appuyé tout ce travail. Mais c'est le genre de préoccupation qui est soulevée et qui remet en cause l'indépendance ensuite de l'organe en question. C'est un mauvais exemple, c'est une mauvaise pente. C'est-à-dire que si à l'avenir nous allons discuter d'organes scientifiques consultatifs qui doivent émettre un avis indépendant, alors on a un exemple, un cas d'école ici de ce que l'on ne doit pas avoir à l'avenir avec un organe indépendant. Alors, je suis vraiment désolée de soulever cette question. Je le fais en toute bonne foi avec un esprit parfaitement constructif, mais je pense que c'est mon devoir ici de souligner cette question, puisque nous allons rentrer dans des discussions très sérieuses et très importantes l'année prochaine. Je vous remercie, Monsieur le Président.